Monsieur Lioger, alors nous avons à traiter ensemble les points 8 et 9 qui ont été fusionnés. 7, 8, 9.
Ben c'est bien.
Les points 7, c'est 8, bien. 9 sont fusionnés bien. De façon à ce qu'on ait un seul débat, on aura trois votes. Monsieur D'accord. Lioger, vous avez la parole.
Merci, monsieur le maire, chers collègues. D'abord, me féliciter aussi les services, et particulièrement, je voudrais dire un mot sur quelqu'un qui nous a quittés, Guillaume Fayol, qui nous a accompagnés dans l'urbanisme pendant presque 8 ans, et qui, en l'occurrence, sur ce sujet de la reconversion de Bon Secours, a été, je dirais, d'une aide précieuse. Il a piloté de main de maître ce dossier, puisque nous allons vous proposer, évidemment, un certain nombre de délibérations concernant cette reconversion de la friche hospitalière qui s'est opérée en 2-3 ans, ce qui est effectivement une rapidité exceptionnelle, à peu près dans les mêmes occurrences d'ailleurs que la reconversion de l'usine des tabacs, cher Dominique, puisque nous avons, il y a peu de temps, encore eu plusieurs inaugurations sur ce site assez exceptionnel qui... Alors c'est toujours pareil, quoi. On critique évidemment les trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais à chaque fois qu'il y a une belle reconversion, vous me permettrez d'être particulièrement fier du travail que nous avons fait, évidemment politiquement, mais aussi les services qui ont été à la manœuvre. Juste une petite chose, regretter peut-être l'optimisme, on va dire ça comme ça, de l'évaluation des domaines dans le sujet, cher Patrick Thiel, puisque vous en avez été le directeur. Cette évaluation était quand même assez conséquente. On a essayé de la faire baisser, mais ça n'a pas été tellement possible. Et surtout, elle a été basée sur les 45 000 mètres carrés de... et on le verra que c'est important.
50 000.
Non, c'est 45 000, bon, on va dire, mais bon, on va essayer d'être objectif. Il faudrait qu'à un moment donné, les domaines acceptent plus de discuter avec nous sur cette évaluation, parce qu'en l'occurrence... ça n'est pas dans la délibération, mais c'est un poids assez considérable, puisque de 45 000 mètres carrés, vous allez voir, on passe à 30 000 mètres carrés de construit. Hein, il y a eu d'autres facteurs que cette évaluation des domaines, mais c'est un poids très important. Alors, c'est bien pour le déficit de la sécurité sociale, puisque c'est l'hôpital qui a récupéré cet argent. C'est beaucoup moins bien pour... d'une certaine manière, les finances de la ville. Bon, c'est un sujet que vous connaissez bien. On en a déjà discuté assez souvent ici. Quelquefois, les discussions étaient assez houleuses et musclées. On arrive finalement à ces quasi-dernières, je pense même, ces quasi-dernières délibérations, puisque si tout va bien, puisqu'on a purgé les permis de construire, on devrait poser la première pierre et construire. Alors, c'est très important que je vous dise ça, puisque au départ, ça devait être construit en plusieurs tranches différentes. Et le succès de la commercialisation a décidé, les promoteurs, à commencer l'ensemble de l'opération. Ce qui veut dire que, plutôt que d'étaler les nuisances inhérentes à une construction, encore que... On peut aussi rendre hommage à l'EPFL, vous me permettrez de le faire, monsieur le maire, pour la qualité exceptionnelle de toute la période de destruction et de nettoyage de la friche. L'EPFL et, les entreprises de démolition qui ont travaillé sur le sujet ont su minimiser au maximum, je pense, hein, les nuisances que la population environnante a eu à subir, à preuve que nous n'avons pas eu de protestation de cette population environnante et même, d'une certaine manière, un certain nombre de félicitations. Mais là aussi, ce n'est pas généralement ces félicitations qui font la une de la presse, mais bien plutôt généralement les critiques. Bon, donc je me permets, sans trop faire d'autosatisfaction, encore une fois, puisque là, il s'agit du travail de l'EPFL et des entreprises qui ont travaillé pour son compte, du travail exceptionnel qui a été réalisé, et d'ailleurs aussi en coordination, monsieur le maire, on a eu à intervenir une ou deux fois avec les promoteurs sur les questions de qui prend quoi, puisque je profite pour le dire, parce que d'une certaine manière, on va vous proposer une délibération qui vous propose d'engager des choses qui n'étaient pas prévues des finances de la ville, sur quelque chose aussi monstrueux que ça, je dirais qu'on a toujours des surprises. Par exemple, le PFL a dû avoir un surcoût, je crois, de l'ordre de 800 000 euros dans la démolition sur un bâtiment qui était amianté, qui n'avait pas été diagnostiqué comme tel. On a eu sur les fondations des surprises aussi par rapport à ce qui a été calculé par les bureaux d'études auparavant, et il a fallu que et les promoteurs et le PFL prennent à son compte des dépassements de 300 à 400 000 euros. Bon, c'est des choses qui, évidemment, n'apparaissent pas ici, puisqu'il y a eu des négociations, mais je voulais dire que c'est inhérent à ce genre d'opération. On a toujours, effectivement, des surprises lorsqu'on arrive vraiment dans le dur, même si on essaye au maximum, avec les bureaux d'études, de serrer le coût de la construction, le coût de la démolition, etc., etc., etc. Je vous rappelle un petit peu donc, les choses. Vous avez lu la délibération. Donc, le bilan était équilibré en dépenses-recettes à 16 745 054 euros. Les recettes prévisionnelles sont à ce niveau-là. Nous vous proposons dans la première délibération la participation financière de la ville de Metz. Le surcoût qui va être absorbé par la ville est détaillé dans le bas de la première page. Hein, il s'agit de 712 350 euros en faveur du logement social. Il y a eu une petite baisse de recettes là aussi de 597 930 euros, due en grande partie aux exigences de hauteur. On a beaucoup été critiqué sur les hauteurs, par exemple, de la ZAC de l'amphithéâtre. Bon, là, on a associé le comité de quartier, mais aussi l'ABF. Bon, celui-ci nous a demandé d'être moins optimiste qu'on le pensait, et donc il y a moins de chaunes, comme on disait, qui a été vendu, et donc il y a un petit peu de manque de recettes par rapport à la vente dont on va parler tout à l'heure, concernant la vente ensuite, une fois qu'on aura délibéré sur les premiers points, aux promoteurs. Au titre de la participation aux espaces publics, on demande une participation de la ville. Bon, là, pour les espaces publics, ça semble plus, je dirais, compréhensible, de 617 313 euros. La motion, enfin, en tout cas, la première motion est en conséquence. La deuxième, approbation du programme des équipements publics. Donc, on a vu les coûts de ceci. Cette deuxième, vous l'avez vu, une annexe que vous avez lue, détaille un petit peu la nature des équipements publics qui correspondent à la somme dont j'ai parlé dans la motion précédente. L'acquisition partielle des terrains de l'EPFL, qui est la condition sine qua non pour qu'ensuite nous puissions les vendre aux promoteurs. Donc, il y a rappel, évidemment, de la convention qui nous lie à l'EPFL sur l'acquisition du site de Bon Secours. Les sommes avec les surfaces sont rappelées, je ne vais pas les relire. Donc, on est dans un système de rétrocession et vous pouvez lire, effectivement, l'échéancier des paiements que la ville s'engage à faire. Évidemment, en face, il faut voir, en plus des subventions d'équipe dont je parlais tout à l'heure, il faut voir effectivement ce que, et ça sera la prochaine délibération, ce que, de manière aussi échéancée, les promoteurs, dont les bailleurs sociaux, je le redis ici, parce que c'est quand même un programme qui contient effectivement 20% de logement social, qui est effectivement une exigence. Donc les bailleurs sociaux aussi et les promoteurs nous verseront de manière échéancée aussi les sommes qui pourront nous permettre ensuite de payer évidemment le PFL. Les trois motions, pardon, monsieur le maire, sont en conséquence, mais évidemment je pense que le vote sera disjoint sur chacune d'entre elles.
Alors selon la décision ou la proposition plutôt de la commission des présidents, donc on débat sur ces trois points-là et on fera trois votes séparés. Et donc j'ai noté madame Grollet, monsieur Aldra, madame Nicolas, madame Colin-Esterlé, madame Isler-Béguin, monsieur Lecadir, madame Salusti et madame Cossic. Madame Grollet.
Pas rien à dire là-dessus. Si, à la conférence des présidents, il y a 4 minutes qui ont été demandées pour. Je plaide pour mes collègues. J'espère que vous m'en serez reconnaissante. 4 minutes qui ont été demandées sur chacun des points. Pour votre.
Alors, on va ajouter 4 minutes. Allez-y.
Oui, début 2013, le vote de du dialogue compétitif, du choix de la procédure du maître d'œuvre a été fait à l'unanimité pour donc la réalisation de logements, commerces et bureaux. C'était à l'unanimité du conseil municipal. Entre-temps, donc, nous n'avons pas soutenu le lancement de la procédure de ZAC. Début 2013, nous n'étions pas au conseil municipal. Mais autant nous souhaitions évidemment la requalification rapide de ce site, autant on peut apprécier aussi, en effet, le chantier qui a été très propre. C'est exemplaire. Autant maintenant, on s'est habitué à cet espace qui est libre et on pourrait souhaiter qu'il ne soit pas rempli à rabord de construction, de haute construction, même s'il y a eu une évolution. Il y a quand même un problème de ce côté-là. Et donc, nous persistons à dire qu'il y a eu un certain nombre d'erreurs dans ce projet. D'abord, en aggravant la saturation du marché immobilier, puisque dans le point presse qui est fait régulièrement sur la situation des ventes immobilières, j'ai noté, je cite un agent, l'arrivée de biens neufs a pour effet de dévaluer l'ancien. Tous les propriétaires d'anciens ont maintenant une pression pour rénover, ça c'est très bien, mais il y a un écart qui se creuse dans l'ancien entre ceux qui peuvent rénover, ceux qui ne le peuvent pas et qui n'arrivent même pas à louer ou à vendre, céder un bien parce que le marché est saturé et ce projet va y contribuer. Il y a une erreur également dans les choix architecturaux. Puisqu'on parle de quartier patrimonial, on parle d'un patrimoine dans ce rapport, d'un patrimoine urbain unique à Metz et au-delà de Metz, dans l'esprit du plan de Konrad Wahn. Et là, on va nous mettre une diagonale qui n'est pas vraiment dans l'esprit du plan de Konrad Wahn. Je note aussi le rue du 20e Corps. Il y a un programme immobilier en cours qui va aussi ajouter à concurrencer celui de Bon Secours, je note une construction qui est beaucoup trop élevée en face de la petite de la supérette, là, une construction qui est beaucoup trop élevée par rapport aux constructions d'à côté. Donc on réclame une inscription à l'UNESCO en n'étant absolument pas respectueux de l'esprit de ce quartier de la nouvelle ville. Erreur ensuite dans le plan de financement, puisque donc on voit qu'il y aura un coût certain, je ne vais pas le détailler, pour la ville, en face des recettes. Et je voulais insister sur un point, c'est l'erreur dans les promesses qui ne seront pas respectées. Le calendrier, évidemment, n'a pas été respecté. Bon, ça, c'est un peu habituel, puisque les constructions devaient commencer dès 2016. Mais surtout la promesse de mettre des équipements publics. Et quand on a regardé ce qui était proposé comme équipement public dans ce projet, il y a une désillusion profonde, parce qu'après avoir fait rêver les habitants de réunions de quartier en réunion de comité de quartier avec des équipements publics qu'on pourrait installer, notamment dans la partie ancienne, dans le bâtiment ancien, eh bien on se rend compte que finalement c'en est fini pour tout cela. La mairie de quartier, de toute façon, en effet, c'est fini, comme la poste qui était en face. Les salles municipales dont on avait parlé, puisque toutes les réunions se tiennent actuellement dans le gymnase de Sainte-Thérèse, c'est bien le signe qu'il y a un manque criant. Les locaux associatifs, la bibliothèque qui était espérée, étant donné le nombre de familles dans ce quartier, le nombre d'établissements scolaires de tous niveaux, manque d'équipements sportifs également, besoin d'espaces verts pour contrer la circulation qui est dense. Alors c'est sûr que la circulation, elle va être détournée, mais d'une façon artificielle qui va augmenter la circulation ailleurs. On en reparlera tout à l'heure. Il était question aussi d'un centre médical de proximité qui est bien nécessaire maintenant que tous les établissements de soins sont partis à l'est de la ville. Et maintenant, donc, on lit que dans le dossier que le bâtiment ancien, du moins ce qu'il en a été préservé, va être réservé pour du logement. Réaffecter les surfaces du bâtiment historique conservé à une opération de logement. Eh bien, je trouve cette façon de faire très regrettable, qui va encore déséquilibrer le quartier et empêcher les habitants de s'approprier ce site de bon secours dans sa nouvelle formule. Je vous remercie.
Merci, madame. Merci, monsieur Aldrin.
Oui, merci, monsieur le maire. Je voudrais faire une remarque à la fois sur la forme, la méthode, et sur l'aspect financier de cette ZAC. Sur la forme et la méthode, puisque vous gargarisez à chaque fois d'être des paragons de vertu en termes de démocratie participative, si on reprend l'historique, 2013, effectivement, on lance le dialogue compétitif, 2015, il y a la création de la ZAC, et 2017, si j'ai bien compris, les dernières motions concernant ce dossier. Et on nous dit en 2017, ah oui, finalement, les habitants trouvent que c'est trop haut, alors on va baisser un petit peu le nombre d'étages. Enfin, si on était dans une logique d'urbanisme dès le départ, on aurait pensé l'harmonie je dirais, le nombre d'étages correspondant. Bon, il y a la logique d'urbanisme et il y a la logique de promoteur. Donc ça, je suis absolument stupéfait qu'on nous explique que finalement, le bilan financier de la ZAC est plus compliqué parce que, mince, les habitants, ont dès le départ probablement émis quelque chose qui a mis 4 ans avant d'être écouté et, je dirais, entendu. Et puis, sur le bilan financier de la ZAC, écoutez, je voudrais quand même rappeler, en 2015, votre ex-premier adjoint avait fait l'exploit quand même, en l'espace d'un mois, octobre 2015, novembre 2015, de nous présenter un bilan de ZAC différent. C'était 15 900 000 euros en octobre 2015 et c'était passé à 15 750 000 en novembre 2015. Et à l'époque, il nous explique, vous voyez, on a baissé. Aujourd'hui, on constate que ça a augmenté de manière importante et je rappelle aussi ce côté un peu ubuesque de la situation à l'époque où nous avions constaté, en une semaine là cette fois-ci, que le nombre de places du parking Mauduit rétrocédé dans l'opération était passé de la commission des finances à 130, je crois, de mémoire, 137 à 85. Et ce qui nous avait à l'époque, quand même alerté sur le côté très flou de l'opération. Alors aujourd'hui, on nous explique que France Domaine n'a pas fait les bonnes évaluations, enfin, voilà, tout ça. Écoutez, moi, je vous dis comme je le pense, je crois qu'il y avait une impréparation totale sur l'aspect financier de cette ZAC. Voilà. Et qu'aujourd'hui, on constate ce surcoût qui, lorsqu'on reprend les débats de 2015, est finalement malheureusement logique.
Merci, monsieur le maire. Écoutez, moi, je trouve que ce projet d'aménagement de la ZAC de Bon Secours semble être un beau projet. Sans commune mesure, d'ailleurs, je dois le dire, avec celui de l'amphithéâtre, et c'est tant mieux. Comme quoi, nous n'avons peut-être pas besoin d'aller chercher des architectes de renom à Paris. Nos promoteurs locaux ont du savoir-faire, connaissent les attentes des Messins, et je crois qu'ils le prouvent au travers de cette future réalisation. Ceci étant, j'espère simplement que vous n'allez pas reproduire les erreurs commises dans d'autres secteurs de la ville, notamment dans le quartier de l'Amphithéâtre et celui de la place Mazel, où par exemple les automobilistes avancent par saut de puce de 20 mètres en 20 mètres, ce qui, vous l'avouerez, n'est quand même pas idéal pour lutter contre les bronchiolites. Le quartier de Bon Secours fait partie des axes pénétrants de la ville, et notamment celui qui mène à la 31. Il est donc impératif que la circulation reste le plus fluide possible dans ce quartier, d'autant plus que ce quartier va subir de plein fouet, par votre manque d'anticipation en matière de stationnement et de circulation, les futurs bouchons liés à l'arrivée de Muse. Alors il ne faudrait pas en plus que la réorganisation de la circulation dans ce quartier débouche sur des engorgements supplémentaires. Je pense sincèrement, monsieur le maire et monsieur l'ex-premier adjoint, qu'il n'y a pas tellement lieu d'être fier lorsqu'on voit ce qui se prépare au niveau de la circulation dans le quartier de l'amphithéâtre et d'une façon plus générale dans la ville et donc au niveau de Bon Secours. Parce que se mettre à réfléchir à l'accessibilité de ce quartier 3 mois avant l'ouverture de Muse, ça démontre quand même une vision à court terme et dogmatique de l'aménagement des flux de circulation dans notre ville. Entre 12 000 et 20 000 véhicules jour dès l'ouverture de Muse, sans compter les jours d'influence lors des manifestations sportives aux arènes, sans compter l'ouverture du futur centre des congrès, sans compter les expositions au centre Pompidou, et bien évidemment, sans compter avec l'éventuelle installation du nouveau siège de Metz Métropole. Moi, je pense que l'aversion qu'on a pour la voiture finira par avoir l'effet contraire que vous espériez. Il n'y aura pas moins de voitures, mais il y aura juste une circulation de plus en plus difficile qui, à terme, aura forcément un impact négatif sur la commercialité du centre-ville et du nouveau quartier de l'amphithéâtre. Parce que quand on amène un flux supplémentaire de 80 000 voitures semaine sans avoir anticipé la circulation, le stationnement, sans parking relais supplémentaire, sans avoir prévu des rues assez larges pour y faire passer les bus, sans pistes cyclables et en ayant supprimé le pôle multimodal, et qu'on nous parle à longueur de temps de développement durable et de lutte contre la bronchiolite, moi je trouve que ça relève du gag. Alors je ne sais pas si votre adjoint à la mobilité a beaucoup d'humour, mais apparemment il en a plus qu'on pourrait penser. Alors cette impréparation aura naturellement des répercussions sur le quartier Bon Secours, d'où la nécessité d'apporter la plus grande attention au futur flux de circulation dans ce quartier. Mais je pense, monsieur le maire, que dans un avenir très proche, nous aurons encore l'occasion d'en reparler. Je vous remercie.
Merci, madame. Madame Collin-Sterlet.
Oui, monsieur le maire, je rejoins ce qui vient d'être dit. Je fonde beaucoup d'espoir dans la ZAC de Bon Secours. Surtout lorsque je regarde la ZAC effectivement d'amphithéâtre avec une densité qui pique les yeux, hein. Ça fait mal aux yeux. Et moi j'ai quand même le souvenir de notre débat lorsque Dominique Gros était dans l'opposition municipale encore, qui siégeait là. Ça fait 10 ans. Moi j'ai des très bons souvenirs. Et on parlait alors et vous aviez voté. Le centre Pompidou-Metz dans un écrin de verdure, vous vous rappelez de ça ? Eh ben, c'était un autre temps, mais là, réellement, je ne suis pas sûre que ce soit beaucoup mieux. Je voudrais profiter de ce point pour revenir sur votre politique générale en matière de logement. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Je vais vous reparler, je suis désolée monsieur Liogé, mais je vais vous reparler de la vacance de logement parce qu'on nous a justement fait passer un rapport sur la situation sociale et économique de notre agglomération, d'ailleurs, qu'on a eu ce matin au Conseil départemental. Et on voit très bien qu'on a une fuite de la population, non seulement de Metz, on l'a déjà dit, où on a perdu 6 000 habitants, mais également de Metz Métropole, au profit de la deuxième couronne. Et on a énormément aujourd'hui de jeunes ménages qui vont s'installer dans les communes telles que Boulay, Bouzonville, dans le Nord également, Mosellan. Ces ménages sont attirés par quoi ? Par la maison individuelle. Et c'est vrai que les communes périphériques répondent à cette demande avec la construction de nombreux lotissements et puis un stationnement gratuit. On aura certainement l'occasion de reparler de cela. Et une véritable politique de proximité au service des familles. Alors, la vacance des logements à Metz, elle est de plus de 10% aujourd'hui. Elle touche évidemment essentiellement l'ancien, ça a été dit, et nous continuons à construire, bien plus d'ailleurs que ce qui était prévu dans le PLH, sur la durée du PLH, si, pratiquement 2 fois plus. Et le problème aujourd'hui, ça n'est plus seulement donc celui des friches commerciales, mais c'est également le problème de la vacance de logement et la dégradation de l'ancien, sur lequel on ne vous entend jamais. Et moi, j'aimerais savoir quel est aujourd'hui le plan d'action concernant l'ancien, la rénovation de l'ancien, parce qu'on se rend compte qu'on a beaucoup de ménages finalement, de personnes plus âgées qui quittent l'ancien pour du neuf. Mais ça ne fait pas venir forcément une nouvelle population, puisque On en a beaucoup, on a une grosse part de la population qui aujourd'hui fuit vers ces communes de la deuxième couronne. Alors bien sûr, pour faire revenir du monde, ça passe par une politique de réhabilitation, hein, évidemment, mais pas seulement. Hein, ça passe par l'attractivité de la ville, une ville avec une vie commerciale de qualité, une ville avec un urbanisme harmonieux, un centre-ville moderne, lumineux, un stationnement facile et peu coûteux.
Merci.
Alors, non, j'ai pas fini, monsieur le maire. J'ai pas fini, j'en ai juste pour une minute.
Allez-y.
Parce qu'il y a aussi un second point, c'est celui des équipements. Et je voudrais juste en profiter pour vous dire qu'il faut savoir tirer les leçons de ces erreurs. Et lorsque on aménage ce quartier... le Bon Secours, j'aimerais vraiment qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs, par exemple, que celles qu'on vient de faire, Patrick Thiel en a très bien parlé, du plateau piétonnier du centre-ville de Metz, qui est absolument désastreux sur le plan esthétique et en plus qui présente une certaine dangerosité, puisque nombreux sont les piétons qui s'y cassent la figure dès qu'il pleut. Alors je vous rappelle quand même que c'est la réfection du plateau piétonnier. C'est un coût, un budget de 3 millions d'euros. Et le département a subventionné à hauteur de 400 000 euros.
C'est un autre
et je peux vous
sujet,
dire que ce n'est pas une affaire. Non, ce que je veux vous dire, monsieur le maire, quand on aménage un quartier, il faut faire attention à ce qu'on fait. L'histoire du plateau piétonnier, ça va rester pour les 30 années qui viennent.
Merci, madame.
C'était fait pour redonner de l'attractivité au centre-ville. C'est un raté complet.
Merci.
J'espère qu'on ne fera pas la même erreur dans le quartier de Bon Secours. Je vous remercie.
Merci, madame. Madame Bissler-Béguin.
Oui, monsieur le maire, chers collègues, moi je voudrais dire que la ZAC de Bon Secours, c'est absolument pas un raté. Au contraire, je crois qu'il faut se féliciter de ce qui a été mis en place. Et puis aussi, c'est un beau projet. Je pense qu'en plus, il a été bien mené. Et tout le monde le reconnaît. Il y a eu un certain nombre de réunions de concertation où les gens ont pu s'exprimer. Et effectivement, je crois qu'a été pris en considération un certain nombre de remarques. Et c'est vrai que. On peut se poser la question, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le moins bien, la densification, pas la densification. Moi, je préfère construire à l'intérieur de la ville sur ce genre de friche plutôt que d'aller occuper encore de l'espace, prendre sur des terres agricoles. Et ensuite, les conséquences, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que certaines personnes pensent... oui, ça vous dérange pas que si je parle ? Donc, ce que je disais, c'est qu'effectivement, les personnes qui vont aujourd'hui dans cette deuxième ou troisième couronne, elles font un mauvais choix, elles font un mauvais calcul. Parce que dans quelques années, vous le savez très bien, ne soyez pas démagos, dans quelques années, vous savez très bien que ça leur coûte en essence, que ça leur coûte en déplacement et que nous, au niveau de la collectivité, ça nous coûtera également en transport en commun. Il faudra bien qu'on les organise, ces transports, pour que ces gens viennent ici travailler en général en ville. Donc je crois qu'il ne faut pas changer de... présenter de fausses bonnes solutions. Mais je voulais également parler du rapport que nous avons passé le 30 mars par rapport à l'écoquartier, donc des Sansonnets. Donc nous avons demandé un label pour l'écoquartier des Sansonnets. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui la charte qu'on a votée également, eh bien on pourrait très bien faire une demande pour que le quartier, la ZAC de Bon Secours, soit également labellisé écoquartier, parce que apparemment tous les critères, les 20 critères qui sont dans la charte peuvent très, très bien correspondre à cette labellisation. Par contre, peut-être un bémol par rapport justement au transport en commun. Ce que j'aurais aimé, c'est que la desserte des transports en commun soit mieux identifiée. On ne la voit pas, on ne parle pas, on n'explique pas. Et pourquoi je vous dis ça, monsieur le maire ? C'est parce que nous savons combien il est difficile de faire accepter à nos chers concitoyens de mettre en place des sites propres pour nos transports en commun. Nous le savons, Quai du Rimport, nous l'avons vécu, Avenue du Haute-Cloque. Donc, on continue sur la suite, sur Verdun. Donc, je pense qu'il faut préparer les populations, tout simplement, en leur expliquant, comme vous l'avez fait lors de la conférence de presse, que oui, effectivement, nous allons tenir nos engagements au niveau de la COP21 et que nous nous allons tenir ces engagements pour réduire les gaz à effet de serre et que ça passera par une politique, ça passe par une politique très forte que nous menons à Metz Métropole pour mettre en place les transports en commun et de plus en plus de sites propres pour nos bus pour que justement les personnes qui ont envie de se déplacer différemment eh bien, prennent le bus ou d'autres... Ou d'autres modes de déplacement actifs comme le vélo.
Merci, juste... madame. Oui. Merci, madame. On est convaincus et je suis d'accord avec vous. Madame Zimmermann, vous avez demandé 4 minutes.
Elle est
Alors, c'est qui sont transférés vers monsieur Lebeau. Alors, on y va, monsieur Lebeau. Alors, 2 minutes pour monsieur Lebeau, 2 minutes pour monsieur Thiel. Voilà.
Alors, je vais m'occuper de la partie financière, qui est assez extraordinaire, puisque, globalement, c'est, ce qui est présenté, c'est un déficit d'€1,927,593, en apparence, parce qu'il faut prendre en compte toutes les dépenses qui ont été supportées directement par la ville. Le gardiennage et autres éléments où on rajoute, globalement, 1 à 2 millions. Ça, c'est certain. Donc, on est plus proche des 4 millions de déficit. Premier élément, ça, c'est au niveau global de l'équilibre. Maintenant, on va prendre les recettes. Vous affichez des recettes à hauteur de 14,495,051. Or, le seul bien qui a été vendu, qui va être vendu, est pour un montant de 11,680,000 €, soit un écart à la louche de 3 millions d'euros. Et si je me réfère à la motion du 28 octobre 2015, la seule emprise qui restait, c'était le bâtiment historique. Bâtiment historique qui était noté et évalué dans la motion de 2015 à combien ? À 2 millions d'euros. Donc, manque 1 million d'euros. Où est ce million d'euros ? Ça, j'aimerais bien le savoir. Parce que, je reprends la démonstration parce que vous avez du mal à suivre, visiblement. On a 14 millions, on vend 11 millions, manque 3 millions, dont, dans les 3 millions, 2 millions sur le bâtiment historique. Donc, il manque 1 million de recettes. J'aimerais savoir où est ce million de recettes. Voilà les éléments. Et dernier point, c'est le stationnement. Je reviendrai beaucoup plus en détail et je prendrai beaucoup plus de temps, monsieur le maire, sur la vente en elle-même de Bon Secours, du site. Mais aujourd'hui, il y a consubstantiellement à cette ZAC un déficit de stationnement par rapport au nombre de logements. Donc, on sait que globalement, cette ZAC va créer une difficulté énorme de stationnement. Alors, on a fait plaisir aux promoteurs en leur cédant 85 places de stationnement pour éviter qu'ils fassent un parking au niveau moins 2. Il suffit de faire... un parquet au niveau moins 1, pour ça coûte beaucoup moins cher. Je trouve que cet équilibre n'avantage que les promoteurs et n'avantage aucunement la ville de Metz. Et je voudrais dire aussi, c'est que la ville de Metz a indirectement financé Merci par le prix d'achat complètement délirant de l'hôpital de Merci. Et je me demande... Si vous n'avez pas accepté, monsieur le maire, je ne voudrais pas faire référence à l'arrêt de la Cour administrative de Nancy qui donne 10 minutes de temps de parole à chaque personne, à chaque intervenant. Je ne voudrais pas en revenir là-dessus puisque ça a été clairement écrit par la Cour administrative de Nancy. Donc vous ne pouvez pas couper la parole. Donc ne me coupez pas la parole, j'éviterai de revenir. Je voudrais revenir sur ces éléments qui sont quand même assez lourds puisqu'on parle... On parle en millions d'euros. Donc, globalement, pour moi, cette ZAC a un déficit de 5 millions d'euros et exclusivement au bénéfice des promoteurs.
Merci, monsieur Thiel. Pour répondre peut-être sur les domaines, si jamais vous voulez vous risquer.
Je vais prendre...
Ce sera une réponse directe.
J'espère ne pas dépasser mes 2 minutes et je vais donc aller assez vite, d'autant que beaucoup de choses ont déjà été dites. Je voudrais premièrement dire à M. Lioge qu'il n'en va pas de l'évaluation des domaines comme des plus. C'est-à-dire, c'est ça, oui, comme on révise les plus à chaque fois qu'un promoteur demande quelque chose, je voudrais dire qu'il ne s'agit pas de ça pour le domaine. Je voudrais enfin, je me suis déjà expliqué là-dessus, le domaine n'est pas, comme vous pensez, fixe les prix, il les constate. ça veut dire qu'il voit par rapport au marché immobilier, lorsque le marché immobilier n'est pas suffisant, il étend son aire géographique pour avoir des biens comparables, et ce n'est pas en fonction de vos projets qu'il fait ses évaluations, mais en fonction des immeubles que vous achetez. C'est tout.
Donc, vous répondez donc, au déficit, hein, monsieur.
Je dis ce que, comment fonctionnent les domaines. Les domaines, on ne négocie pas le prix, on ne se met pas autour d'une table, on n'est pas avec des promoteurs, on est face à une administration de l'État qui constate un marché immobilier. Je reprends le terme, qui constate un marché immobilier. Donc, à partir de là...
Non, c'est important quand même. 45 000 mètres carrés, il constate sur 45 000 mètres carrés, alors qu'on ne peut pas faire plus de 30 000. Et à un moment donné, l'État devrait, les domaines, comprendre qu'on ne peut pas reconstruire 45 000, parce qu'en même temps, vous nous reprochez d'être trop haut et d'avoir trop de chaînes.
Si on avait pu faire 45 000, on n'aurait pas ces discussions sur le déficit.
Bon, je reprends la parole et on va me décompter.
On va vous donner le temps de
nouveau, je dis faux arguments. Ce n'est pas en fonction de votre projet. Là, vous venez de dire ce que je viens de dire. C'est-à-dire c'est en fonction de mon projet de chaîne que le prix est fixé. Mais demain, vous feriez un verger, vous seriez en train de m'expliquer que vous achetez un immeuble ou un hôtel particulier pour rien, parce que demain, vous allez planter dessus des pommiers. C'est ça, votre raisonnement. Donc, ce n'est pas en fonction de votre projet qu'on évalue les immeubles qui sont à vendre. On vend les immeubles et ça a bénéficié à cette... Il y avait derrière les hôpitaux de Metz, quand même, dont M. le maire est en même temps président du conseil d'administration. Donc, il sait de quoi je parle. Alors, moi, je voudrais revenir sur une chose. Les éléments financiers vous ont été donnés. Je voudrais simplement accentuer ce qui avait été esquissé par Nathalie Collin-Housterlet. C'est comment voulez-vous que... Il est question ici des équipements publics, notamment dans une des motions. Comment voulez-vous que je n'appelle pas fortement votre attention sur l'esthétique, la beauté de la ville derrière ce qu'il y a des équipements publics? Parce que quand on voit ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, pardonnez-moi, mais la place autour de Pompidou, beaucoup l'ont dit, c'est quand même une catastrophe, à la fois sur le plan urbanistique et sur le plan architectural. Moi, je suis un amoureux de l'architecture, y compris contemporaine. Mais quand je vois ce qui se fait, j'ai été l'autre jour à la Seine, vous savez, S-E-I-N-E, pour voir l'exposition Callas, que je vous recommande, et qui est un magnifique auditorium qui a été fait à Boulogne-Billancourt. Et derrière tout ça, il y a des quartiers modernes. Mais quand je vois ces quartiers modernes, quand je vois ces rues, mais monsieur le maire, mais je rêve et je me dis, mais pourquoi n'a-t-on pas fait ça pour l'avenue Mitterrand, qui en rien ne ressemble à une avenue? Alors moi, je crains, je vous dis, faites très attention à l'esthétique, ça compte beaucoup. Et j'insiste sur un point, l'esthétique, elle se partage avec tout le monde. C'est-à-dire, on est tous citoyens de Metz, propriétaires de notre esthétique. J'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure.
Merci, monsieur Lecadir.
Monsieur le maire, je voudrais d'abord me féliciter de voir qu'on est dans une ville où, lorsqu'on a affaire à ce type d'opération, on arrive à requalifier la ville sur elle-même sur des délais extrêmement raisonnables. C'est quand même important de le souligner, ça a été dit par Richard Liogé. Je sais que la tradition est de pointer ce qui ne va pas, mais il est quand même utile et ça fait du bien de voir que sur toute une série de projets, regardez l'ancienne maternité Sainte-Croix, c'est extraordinaire. On aurait pu garder ça pendant des années. On aurait pu être squatté, on aurait pu trouver des planches pour fermer les fenêtres. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est devenu un bijou et en plus à vocation sociale. Regardez ce qui se passe du côté de l'usine des tabacs et ici... On réussit une performance sur des délais relativement courts, en ayant engagé, que vous le vouliez ou non, de l'échange, de la concertation avec les habitants. Et permettez-moi de vous le dire, c'est jamais facile. Parce qu'il faut arriver à concilier des contradictions, c'est comme ça. Quand on est là, on est 55, on a tous un avis. Et bien, il faut arriver à concilier quelque chose qui reste cohérent et qui réponde à l'intérêt général. Or, ce que nous sommes en train de faire à Bonsecours, ça rentre parfaitement dans l'intérêt général. Je peux vous dire, et je connais des gens qui habitent autour, ils sont aux anges parce qu'ils savent que leur bien va prendre de la valeur, parce qu'ils savent que leur quartier va s'embellir. C'est incontestable. Il suffit de demander aux professionnels, je ne suis pas professionnel de l'immobilier, mais c'est un fait incontestable. Donc je pense qu'il faut parfois savoir saluer ce type de performance. Reste deux questions. Celle du prix, pareil, Richard l'a dit, c'est comme ça, il y a un déficit. Beaucoup de projets ont ce type de constat, parfois sur des proportions extrêmement élevées. Là, nous l'assumons, je dirais, par rapport à l'intérêt général global sur le projet. Et ensuite, il y a la question de l'esthétisme qui a été évoquée par Patrick Thiel. Je rejoins Patrick Thiel. Je pense qu'il faut qu'on fasse extrêmement attention parce que c'est l'image d'une ville. Il faut que les habitants adhèrent. Et je pense que ce qui est proposé pour le coup sur la ZAC de Bon Secours, c'est tout à fait dans l'esprit de ce qu'on peut voir dans ces quartiers modernes qui respectent une forme d'esthétisme. Donc je pense qu'on est véritablement en bonne voie. C'est un beau projet et je crois qu'on peut se féliciter collectivement de cette réussite.
Madame Sallusti.
Oui, monsieur le maire, chers collègues, je vais aller dans le sens de ce que vient de dire mon collègue Hassène Lecadir et profiter de ce point, en l'absence notamment de Thomas Scuderi, pour souligner tout au long de ce projet de qualité, la qualité de la concertation, contrairement à ce qui a été dit jusqu'ici, initiée dès le dialogue compétitif, poursuivie tout au long du projet avec les habitants et les commerçants, et encore mardi soir où, lors d'une réunion de comité de quartier, leur était présentée l'avancée du projet, le calendrier, les évolutions aussi du projet, et qui fait que ce projet de qualité remporte non seulement un succès de vente, ce qui donne aussi du sens à notre action, mais aussi auprès des habitants. Hassen Lecadir l'a souligné à plusieurs reprises. Vous ne les entendez sûrement pas, ou alors on n'entend pas les mêmes. Il suffit d'aller le dimanche matin sur le quartier pour entendre ce qu'ils disent de ce projet. D'ailleurs, plusieurs rejoindront les logements qui sont en construction. Et nos concitoyens sont aussi des gens responsables qui savent qu'en ces temps de budget contraint, il vaut mieux quelquefois renoncer à une salle de réunion qui ne serait utilisée que quelque temps pour mutualiser avec d'autres, notamment l'INSEE, qui proposera... voilà, hein, et qui leur a été indiqué mardi soir, comme l'évolution des projets autour des écoles que Daniel Bory a présenté lors de cette réunion. Merci.
Merci, madame. Eh bien, écoutez, on va maintenant sur ces trois points. Ah non, il y a des réponses à apporter, pardon.
Excusez-moi.
Monsieur Lieuger.
Ça a été assez long. Je voudrais quand même commencer sur cette question esthétique et les interventions systématiques de M. Thiel sur la ZAC de l'Amphithéâtre. Je voudrais rappeler que les promoteurs et les architectes ont été choisis en 2006. M. Thiel, vous avez une mémoire qui est très sélective. C'est vrai, vous pourrez vérifier. Je demande effectivement à ce qu'on vérifie ce point. Les promoteurs et les architectes avec l'ensemble, notamment le plan MAS de Nicolas Michelin, mais les promoteurs aussi, puisque vous aviez les promoteurs viennent avec leurs architectes, ça a été dit tout à l'heure sur la question des architectes qui... Alors,
si vous voulez bien laisser répondre, monsieur Lieuger, on vous a écouté religieusement. Ce serait bien de l'écouter.
Non, c'est pas faux et ça pourrait vous être confirmé. Maintenant, moi, j'assume le choix que vous avez fait des architectes et des promoteurs. On a refait d'ailleurs un certain nombre de choses et toutes les projections architecturales ont été validées par la commission de Metz Métropole et la commission de Metz. C'est-à-dire que quelque part, vous êtes extrêmement désobligeant avec les collègues qui ont participé à ces commissions et qui ont validé, sauf vous n'y êtes jamais, effectivement. Et alors, il y a quelque chose, j'ai trouvé une réponse à votre critique systématique sur ce côté en disant, vous auriez été comme Monsieur Roche, vous auriez tordu le bras aux architectes. Je me rappelle, plusieurs fois, vous m'avez dit ça. On a vu ce que vous avez fait, effectivement. Avec M. Roche, vous n'avez pas dit ça une fois ? Oui, et ensuite vous avez dit qu'il fallait que je torde le bras des architectes éventuellement sur les contraintes. Voilà, vous l'avez fait,
et vous avez même cassé les bras des architectes de Schillig Ruban en coupant complètement une des parties de Pompidou. Ça, c'est effectivement votre manière de faire, c'est-à-dire effectivement de... Alors, je ne sais pas ce qu'on pense, mais quand on va du côté de la voie ferrée, on voit bien ce que ça donne, tordre le bras à l'architecte, en l'occurrence, excusez-moi, mais c'est quand même assez exceptionnel. Eh bien, ce n'est pas ce qu'on a fait. On a travaillé avec eux. Les différents participants des deux commissions que je citais pendant des années ont vu effectivement ce qui était en projection. Maintenant, ça ne vous plaît pas, on en prend acte. Vous n'êtes pas le seul, il y a pas mal de gens qui font des critiques, mais je continue à rester, comme dirait l'autre, droit dans mes bottes sur cette question. Après, il y a eu beaucoup de questions, enfin beaucoup d'affirmations aussi. Sur la rénovation, alors je ne sais plus qui a parlé de ça, il y a des aides aujourd'hui qui sont extrêmement importantes, avec le calme, avec, c'est-à-dire que les propriétaires, y compris ceux qui sont assez défavorisés, peuvent avoir des aides pour la rénovation de leur bâtiment. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est effectivement noté par les uns et les autres, et notamment la question de la vacance, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler ici, moi j'appelle ça une vacance vertueuse. C'est-à-dire que la plupart des appartements qui ne trouvent plus de locataires, des marchands de sommeil, mais même sans aller jusque-là, sans aller jusque-là, on peut aller jusque-là, mais sans aller jusque-là. Aujourd'hui, le client, si vous me permettez de dire ça comme ça, le client qui veut louer quelque chose, il va naturellement vers quelque chose qui est neuf, qui est beau, qui ne consomme peu, et il délaisse, laissez-moi vous répondre, chère Nathalie, il délaisse effectivement les appartements qui n'ont pas été rénovés pendant des années et des années. Ce qui va permettre effectivement aux propriétaires, et là vous pouvez aller voir tous les agents immobiliers, ils vous diront que à partir du moment où un appartement est rénové et au bon prix, ils trouvent en quelques semaines un locataire. Et donc moi, je ne suis pas inquiet du tout sur la vacance. Cette vacance, elle est vertueuse et elle permet effectivement une rénovation d'une certaine manière. Parce que sinon, si vous ne faites pas cette pression par des constructions neuves, effectivement, le locataire, il a plus de difficultés. Et c'est peut-être lui, d'ailleurs, qui va partir à l'extérieur, puisque vous en parliez tout à l'heure. Vous avez raison sur une chose, c'est-à-dire qu'on a constaté que la demande de logement, de maison individuelle, était relativement forte et amenait les gens à partir à l'extérieur. C'est pour ça qu'on a revu complètement le plan masse des Coteaux de la Seille pour faire, et ce qui est en train d'être livré aujourd'hui, des maisons individuelles pour permettre effectivement, notamment aux jeunes ménages, mais on l'a fait aussi sur la ZAC du Sansonnet, de pouvoir accéder. Reste effectivement peut-être encore à travailler sur la question du primo-accédant et sur une question à laquelle je suis très attaché, mais à chaque fois on le fait auprès des bailleurs sociaux, sur l'accession sociale, parce que je pense que ça, et j'espère que dans la nouvelle loi logement, puisque je participe à la commission logement de l'Assemblée nationale, on obligera les bailleurs sociaux à faire de l'accession sociale, ce qui est une des clés pour le parcours résidentiel et pour permettre aussi aux personnes, je dirais, qui sont ayant droit du logement social, de ne pas dépenser, je dirais, leur loyer à perte, mais de devenir propriétaire au bout de quelques années. Je vous rappelle que cette question du logement social et de l'accession sociale nécessite un accompagnement, et c'est pour ça que les bailleurs sociaux sont très frileux là-dedans. Ils ne veulent... Alors, je ne parle pas de tous les bailleurs sociaux, chère Isabelle, je parle de ceux qui ont un beau patrimoine et qui peuvent se permettre, à un moment donné, de l'aliéner, ce qu'ils font, mais ce que, à mon avis, ils ne font pas assez systématiquement, et j'espère qu'on va les contraindre de manière assez importante sur le sujet. En tout cas, Villogia a fait un programme avec Monsieur le maire, que vous voyez peut-être commencer, avenue André Malraux. On les a obligés de faire un plot sur quatre plots en accession sociale. Ils n'étaient pas très contents, mais finalement, au bout du compte, ils ont vendu très facilement. Et donc, l'accession sociale est aussi une de nos politiques, et j'espère qu'elle sera bientôt au niveau national. Je reviendrai sur le bilan de la ZAC, juste pour dire, remercier d'ailleurs, puisque quelque part, vous, Madame Nicolas et Colin Serlet, vous nous avez félicité quand même sur le travail réalisé. Sur les architectes, il y a au moins un architecte que j'ai imposé, qui est un architecte luxembourgeois, qui est Monsieur Valentini,
parce que justement, parce que c'est vrai que vous avez raison, les architectes locaux ont très très bien travaillé, et il y a eu effectivement un travail très important entre les différents architectes de cette ZAC qui a effectivement aujourd'hui, alors bon, on verra si elle plaît ou si elle ne plaît pas, mais en tout cas dans les comités de quartier, comme le rappelait tout à l'heure Patricia, nous avons effectivement eu plutôt des bons retours. Sur la maison individuelle, j'ai déjà dit. Maintenant, sur les questions financières. Écoutez, je ne comprends pas votre question, monsieur Lebeau. On présente un budget. On vous propose un budget pour la ZAC. On s'engage politiquement sur la réalité de ce budget. Si vous pensez qu'il est insincère, pour reprendre quelque chose, bien vous allez devant le tribunal administratif et vous contestez ce budget. Je ne vois pas qu'est-ce que je peux vous répondre autrement que nous sommes équilibrés en dépenses et en recettes sur le budget que nous vous proposons. Je ne vois pas... Alors, après, on a effectivement mis de côté, et c'est, bon, parce que les promoteurs n'étaient pas prêts sur le dernier immeuble, enfin l'hôpital le plus ancien de 2 millions, on va travailler sur le sujet de la même manière, et Patricia Sallusti l'a dit, qu'on a travaillé aussi avec l'INSEE pour permettre effectivement d'avoir des salles de réunion, ce qui est une manière effectivement de répondre aux choses. Je ne vois pas de quel million vous parlez. Je vais conclure, me demande le maire, puisque j'ai effectivement été... Ah oui, juste une dernière chose pour dire que dans tous ces calculs savants, qui sont des calculs, excusez-moi de le dire comme ça, monsieur Lebeau, comptable, on oublie un retour... Le retour sur investissement, et ce retour sur investissement, c'est les personnes qui vont venir sur Metz, qui vont habiter Metz, ou qui vont louer et qui vont payer des impôts locaux pendant quelques années. Merci. La motion est en conséquence, enfin les trois motions
sont en conséquence.
Non, mais c'est on perd
non. Je voudrais remercier les uns et les autres pour ce débat. C'est vrai qu'on a rarement eu, un projet d'urbanisme de cette importance qui a autant associé les riverains et le quartier. Et ça a été dit par Mme Sallusti, nous pensons au travail qui a été fait en démocratie participative. C'est extrêmement rare de voir un projet qui a été autant porté par un quartier. Je voudrais moi juste ajouter un point. C'est celui de la somme versée à l'hôpital. Je suis effectivement président du conseil d'administration de cet hôpital. Et quand les domaines m'ont annoncé que c'était bien 11 500 000 euros qu'il fallait donner au domaine, finalement c'est 11 millions que, je me voyais difficilement expliquer à l'hôpital, qui à l'époque en plus de ça était sous contrôle des instances de la sécurité sociale, que finalement on n'y voyait pas suffisamment clair sur la façon dont les choses allaient se passer et que j'allais lui proposer 8 ou 9 millions ou sinon qu'il aille voir des promoteurs. Il y avait deux raisons. La première, c'est que l'hôpital c'est aussi un service public. Et que l'hôpital est un partenaire permanent des populations locales et que c'est extrêmement délicat pour quelqu'un qui représente la ville de Metz et qui est président de considérer qu'il doit faire des économies sur le dos de l'hôpital, premièrement. Et deuxièmement, c'est également pour des raisons de rapidité. Parce que le fait que ce soit la ville, il n'y avait aucun promoteur qui voulait prendre la totalité du projet. Je vous rassure, l'opération des tabacs est une opération exceptionnelle parce qu'on a trouvé globalement un promoteur qui a bien voulu prendre toute l'opération. Et jusqu'à présent, on a eu de la chance, mais ils étaient à plusieurs, mais ils se sont mis ensemble. Et jusqu'à présent, dans nos opérations d'urbanisme, ça se prépare pour s'attendrer, c'était vrai pour les Hauts-de-Sainte-Croix, on a eu énormément de succès, et je me tourne encore vers Richard Leger, pour avoir des promoteurs qui reprennent les opérations directement. Pour une partie des biens de l'hôpital, là où il y avait l'école d'infirmières, là où il y avait la direction, oui, on a pu faire une opération avec un promoteur. C'était compliqué. L'hôpital, il n'a pas encore été payé, l'hôpital. Il attend encore son argent. Parce que l'hôpital ne touchera son argent que quand les promoteurs auront payé. C'est-à-dire que c'est une sanction pour l'hôpital qui doit attendre, parce que les promoteurs, ils n'achètent pas comme ça. Je vous achète quelque chose à condition que j'ai réussi toutes mes opérations et vous serez payé à la fin. Voilà comment ça marche. Et donc, il y avait une certaine rigueur morale, permettez-moi de vous le dire, c'est comme ça, une rigueur morale à ne pas essayer de faire, disons, des marges excessives sur l'hôpital.
Maintenant, c'est une petite précision qui est importante, c'est le PFL qui a payé le gardiennage. Bon, le PFL nous a fait également énormément de cadeaux. Pourquoi le PFL nous a fait des cadeaux ? Parce que,
c'est les impôts.
Monsieur Lebeau, je vous ai écouté religieusement, laissez-moi terminer. Le PFL a pris à sa charge une bonne partie des dépenses liées aux démolitions. À partir du moment où une délibération de l'EPFL a pris en compte que les hôpitaux seraient détruits à 100% aux frais de l'EPFL. C'était un progrès considérable parce qu'au début, on payait, c'était 50-50, on payait la moitié. Et donc, on aurait une facture bien plus lourde si on n'avait pas eu cette décision. Il y a à peu près 5 millions globalement qui ont été apportés par l'EPFL dans cette opération-là. Mais sachez bien une chose, c'est que si on n'avait pas l'EPFL, on ne s'occuperait pas de cet hôpital. Il n'y a personne qui en voudrait. Parce qu'il serait encore en train de pourrir au milieu des friches et des boomleurs dedans, comme on dit chez nous, hein, en train d'aller arracher les morceaux de cuivre ou essayer de récupérer des carrelages. La vérité, c'est que la façon dont nous avons agi nous a permis de faire, dans un seul mouvement, la totalité de ces opérations. Et moi, je suis très content de vous dire que le mois prochain, c'est-à-dire au mois d'octobre, on pose la première pierre.
Et vous serez invité.
Et hein. Je vais encore vous dire quelque chose. Moi, j'ai bien compris ce que vient de dire M. Thiel. Il y a quelque temps, j'ai invité les responsables des domaines. Parce que quand les domaines nous évaluent un bâtiment, ils nous disent qu'il y a tant de mètres carrés, je multiplie par tant, parce que le prix du mètre carré dans ce secteur-là, ça vaut tant, même si c'est ancien, boum, on a une facture énorme. Et puis voilà, il nous dit, bon, ça vaut tant. Et puis après ça, il y a le même État, il a plusieurs casquettes, il en a une autre, ça s'appelle l'architecte des bâtiments de France. Il dit, ah, moi, les 45 000 mètres carrés, bon, moi, je suis l'État aussi, et moi, je vous interdis de faire plus que 32 000, ou 31 000, ou 30 000. Et puis, boum, 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 à chaque fois, il y en a un peu moins. Et donc,
et après, le bon,
c'est le même État.
Proteste.
Et puis après ça, il y a quelqu'un qui dit, ben, vous n'avez pas vu, hein, il fallait faire 30 000, il fallait tout de suite calculer autrement, il fallait demander, etc. Et puis, quand vous avez fini de mettre tout à ras, là, et que vous avez fait une belle dalle, une belle terrasse, là, que c'est prêt à déposer la première pierre, vous tournez vers le PFL, dites, mais c'est un terrain nu, ça vaut presque rien, ça. Ça vaut quelques millions. Vous savez comment on calcule un terrain nu, me dit-on? Toujours, un terrain nu, ça vaut pas cher. Un terrain nu, ça vaut tant. Alors, j'aurais dit, à un moment donné, on a discuté, je leur ai dit, écoutez, maintenant, on a bien compris, à un moment donné, il ne faut pas gruger l'hôpital, hein, il faut respecter ce que dit l'architecte des bâtiments de France, il faut à nouveau écouter ce que nous disent les domaines, mais monsieur Thiel, vous avez raison, hein, à un moment donné, on est responsable de tout, et ça se passe ici. Et donc, c'est ce qu'on va faire en votant. Hein. J'estime, pour ma part, que ce projet, il est tout à fait remarquable, que le plan d'architecte qu'on a eu, d'urbanisme qu'on a eu plutôt, avec la rue de Biers qui relie les deux lycées, c'est un plan qui est tout à fait intéressant, qui casse la logique des voies qui t'emmènent, vous savez, l'avenue de Verdun, le 20e corps américain, etc. C'est une belle opération. Je vous demande de la soutenir, parce qu'elle a été soutenue par la population. Et oui, nous ferons, ça a été dit, mais je vais le redire, nous moderniserons toutes les écoles à moyennement 5 millions d'euros et nous profiterons, parce que c'est le bon sens, de la salle qui va être construite par l'INSEE. Comment voulez-vous ne pas utiliser une salle publique qui est faite avec de l'argent public État, alors que nous devrions faire une deuxième salle qui serait faite avec de l'argent public local? On va s'arranger avec l'INSEE, nous sommes d'accord. Donc voilà, je vous demande, je serai heureux. J'ai apprécié les félicitations quand même, parce qu'il y en a eu par-ci, par-là. C'est difficile d'être dans l'opposition sur un sujet pareil.
Explication de vote.
Je vous le dis comme je le pense. Hein. Alors, on va voter séparément.
Explication de vote, s'il vous plaît.
Monsieur Cazin.
Non. Explication de vote.
Alors, monsieur Cazin, vous avez le droit à une explication de vote.
C'est bien, c'est gentil.
Allez-y.
Donc, ce sera un vote contre. J'avais déjà voté contre, parce que je pense qu'il ne fallait pas rajouter du béton au béton. On en rajoute. On obtient un total des logements qui ne seront peut-être pas occupés, puisqu'on nous dit qu'il y a un succès de la commercialisation, mais qui achète? Est-ce que les gens achètent pour habiter? Est-ce que c'est des placements fiscaux, etc.? On n'a aucune idée là-dessus. On n'a aucune vision d'ensemble de la demande. Madame Colin-Osterlé l'a bien souligné. Les habitants partent. Alors, qui va habiter ces logements? Qui va pouvoir se payer ces logements? On le voit aussi, quand même, le palais de la métropole, c'est exactement le même problème. Le palais de la métropole, on a un bâtiment de 30 millions d'euros. Personne ne veut l'acheter. Aucune société privée veut l'acheter. On est obligé de faire quoi? De le mettre... De le faire occuper par la métropole, c'est-à-dire de suppléer à une demande de marché qui n'existe pas. Donc on supplée à une demande de marché qui n'existe pas. Là, c'est la même chose. Vous avez des gens qui achètent, peut-être. Vous achetez pour quoi? Pour du Pinel, en direct, pour du Pinel en SCPI. Vous allez mettre à quel loyer? Et après, qui va loger là-dedans? Est-ce que vous avez une étude de marché là-dessus? Qu'il y ait des achats individuels, possiblement, pour des gens qui pensent faire de bonnes affaires. Mais on peut penser faire de bonnes affaires et se tromper. Donc, à mon avis, au vu de la demande de logement qu'il y a aujourd'hui, ben vous risquez d'avoir des friches en termes de logement ces prochaines années. Donc ce sera à votre compte.
Merci. Qu'est-ce qui veut encore expliquer son vote ? Madame Nicolas.
Monsieur Lioger, deux choses. J'aurais bien aimé quand même que vous me répondiez.
C'est votre vote qu'on veut expliquer.
Eh bien, je... Là, vous ressemblez à M. Boll, hein, M. Gros, hein. Attention.
C'est à force de présenter.
Il n'est pas trop dur. Voilà. Donc, je disais que j'aurais simplement voulu avoir des explications sur les futurs flux circulatoires. Et vous rappelez, M. Lioger, que finalement, le Luxembourg, c'était quelque chose de très local. Je vous remercie.
Merci. Il y avait encore une explication de vote. Monsieur Lebeau, vous pouvez expliquer votre vote ?
Je ne prendrai pas part au vote. Pourquoi ? Parce que le budget est insincère, comme vous l'avez dit, et est totalement insincère, tant au niveau des recettes, où M. Lioger a été dans l'incapacité totale d'expliquer où se trouvait ce million. C'est quand même fou. C'est quand même le pire qu'on ait. Et quand on va voir la suite, je vous souhaite pas de mal, monsieur Lioger, mais quand on va voir la suite, c'est quand même très bizarre. Donc, je dis simplement, et j'appelle toutes les personnes qui ont entendu ce débat à prendre bien conscience que, au niveau des recettes, ce budget n'est pas sincère. Donc, je ne prendrai pas part au vote de ce point de vue-là. Nous ne prendrons pas part au vote de ce point de vue-là.
Et monsieur le maire, l'explication nous convient également pour ne pas prendre part au vote.
Oui, pour notre part, nous prendrons nos responsabilités, nous prendrons part au vote et nous voterons contre ce projet qui, quoi qu'on en dise, moi je rencontre beaucoup d'habitants qui sont plutôt résignés, c'est-à-dire qu'ils se disent, bon d'accord, on nous a supprimé la moitié des places de stationnement par exemple, après on nous a remis une partie, on nous a fait rêver sur des équipements, on ne les aura pas. On va avoir une salle de l'INSEE, pourquoi pas mutualiser, mais il y avait aussi beaucoup d'autres projets qui méritaient d'être pris en compte pour ce quartier. On a détruit la moitié du bâtiment ancien et c'est vraiment très dommage de construire du neuf qui ne sera pas durable alors qu'on démolit le bâtiment, une partie du bâtiment historique. Voilà, et attendez, j'avais encore quelque chose à ajouter. Oui, on nous a dit que les habitants seraient très heureux de voir leurs biens réévalués, donc prendre de la valeur à 10 ou 20%. Mais dans 30 ans, quand sera-t-il ? Quelle sera la durée de vie de ces constructions modernes ? Ben oui, la valorisation de son bien, on ne la voit pas à 5 ans, mais pour quelqu'un qui est propriétaire, mais il la voit à plus long terme. Et je ne suis pas sûre que se retrouver dans un quartier... une nouvelle ville qui est un quartier avec un cachet extraordinaire à côté de bâtiments qui ne vont pas vieillir de la même façon et tout le monde le sait très bien, on n'est pas dans un quartier moderne, ça ne sera pas non plus un bénéfice pour eux, donc nous voterons contre les trois délibérations.
Alors je prends le point numéro 7, Zach de Bonscourt, approbation du dossier de réalisation. Qui prend pas part au vote? Je vérifie tout de suite. Voilà, tout le monde ici prend pas part au vote. Qui vote contre? 1, 2, 3, 4, 4, oui. Et donc, qui s'abstient ? Il n'y en a pas. Qui est pour, alors ? D'accord. Donc, deux personnes de l'opposition qui sont pour. C'est noté. Le point numéro 8, je recommence. Qui ne prend pas part au vote ? Alors, les mêmes ? C'est les mêmes votes ? Qui vote contre ? 1, 2, 3, 4. Qui s'abstient ? Il n'y en a pas. Les autres sont pour. Je vous remercie. Et le point numéro 9, acquisition de parcelles. Qui ne prend pas part au vote ? Les mêmes ? Oui. Qui vote contre ? 1, 2, 3, 4. Qui s'abstient ? 1, 2, 3, 4, c'est bien les mêmes ? C'est ça. Le Front National est ici, d'accord. Et qui vote pour ? D'accord. Donc, ce sont les deux. C'est bien. Les points sont adoptés. Je vous remercie.